Alors, on va continuer, c'est-à-dire notre étude sur la Genèse. On est rendu au chapitre 26, les versets 12 à 25. Alors, chapitre 26, versets 12 à 25. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha point querelle et il l'appela Rehoboth. « Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. » Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, on va demander au Seigneur qu'il bénisse notre réunion, qu'il bénisse notre moment de notre étude sur Genèse 26. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu glorieux et plein de puissance, de majesté, d'intelligence, de force, de sagesse et d'amour et de miséricorde et bien d'autres choses encore. Seigneur, ta personne est tellement grande que l'éternité elle-même, même lorsqu'on sera avec toi dans le ciel, ne suffira pas pour qu'on puisse te découvrir pleinement, exhaustivement, pleinement. Nous allons avoir toute l'éternité pour apprendre toujours un peu plus d'avantages sur toi tellement tu es grand. Seigneur, tu nous as donné ta parole. C'est un cadeau d'une inestimable valeur dont nous négligeons parfois un peu la lecture, l'étude, la méditation, la mémorisation. On est paresseux parfois, on est négligent de cet immense trésor que tu nous as laissé. Ce matin, Seigneur, nous voulons étudier une très petite portion du livre de la Genèse parce que dans chaque verset, dans chaque groupe de versets que tu veux nous enseigner, il y a toujours une multitude de leçons que nous devons apprendre. Nous apprenons toujours des choses sur toi, nous apprenons toujours des choses sur Christ, nous apprenons toujours des choses sur la faiblesse de l'homme et sa misère et son péché. Et Seigneur, et les leçons que tu nous apprends dans tous les versets des Écritures nous sont très précieux. Ils nous apprennent et nous transforment. Que ton Saint-Esprit, notre Dieu, nous accompagne ce matin, soit avec nous et nous transforme. Permets, Seigneur, qu'on ne fasse pas uniquement écouter ta parole, qu'elle nous passe par une oreille, qu'elle sorte par l'autre. Permets qu'elle demeure dans nos cœurs et qu'elle nous amène à la méditation. Qu'elle nous amène aussi à changer quelque chose de précis dans nos vies, et tout cela pour ta plus grande gloire. C'est ce qu'on te demande, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, j'ai intitulé ce matin la leçon le sermon « Le Seigneur éprouve Isaac dans la prospérité ». Le Seigneur a différentes manières pour nous éprouver. On avait vu, par exemple, la semaine dernière, que Dieu avait éprouvé Isaac par la famine. Il y avait eu une grande famine dans le pays des Philistins. Et quand Dieu lui a fait la promesse, et bien sûr, il s'attendait, lui, à ce qu'il y ait un... Quand Dieu fait une promesse qu'il va te donner un pays, tu t'attends à ce que le pays va regorger de bénédictions et de choses semblables. Et qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Il s'aperçoit que Dieu lui envoie une famine. Alors, quel était le but? Bien sûr, le but était de l'éprouver. Et on avait vu dans la leçon de la semaine dernière qu'il l'éprouvait de deux façons. Il l'éprouvait, d'abord, on a vu qu'il avait obéi. Quand il avait dit « Ne descends pas en Égypte, reste ici, je m'occupe de toi. » Il a obéi, il a été récompensé. Mais il a aussi désobéi, parce qu'il a eu peur que le roi s'approprie sa femme, et il a eu peur de mourir, et il a agi un petit peu en insensé. Premièrement, il a manqué de foi en Dieu, et il a risqué la vie de sa femme. Et c'était grave que ce qu'il faisait. Dieu a utilisé les deux expériences, l'obéissance et la désobéissance en temps de famine, pour lui montrer des choses très importantes qu'il se devait d'apprendre. Mais Dieu a plusieurs manières de nous éprouver. Parfois, on pense que la prospérité, d'avoir beaucoup de biens, que c'est une bénédiction. Oui, ça peut être une bénédiction, mais ça peut être aussi quelque chose qui t'amène des problèmes. Tous ceux qui sont riches pourraient vous en parler. Quels problèmes ça l'amène? Ça l'amène qu'ils ont peur de perdre leur argent. Ça l'amène la jalousie des gens. Ça l'amène la violence, comme on va le voir dans le texte ce matin. Le texte nous dit qu'il était devenu fort riche et que sa fortune grossissait sans cesse. On peut voir ça comme une bénédiction, ça en est une. Mais tout dépend de la manière dont tu vas utiliser l'épreuve que Dieu va t'envoyer, sinon ça risque d'être une mauvaise expérience. Alors aujourd'hui, on va voir que les Écritures nous apprennent que la vie chrétienne en soi comprend un côté amer. Qu'on le veuille pas, Dieu dit qu'il va nous éprouver. Et on le sait tous, si quelqu'un qui a le moindrement d'années d'expérience dans la vie chrétienne, il sait que Dieu va t'éprouver. Il t'éprouve de toutes sortes de façons. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment Dieu éprouve Isaac par la prospérité, dans la prospérité. J'ai intitulé le titre « Le Seigneur éprouve Isaac dans la prospérité ». Alors, dans la prospérité, ça veut dire qu'il, prospérité, il veut dire qu'il était riche. Ça nous dit que, imaginez-vous, vous êtes dans un pays de famine. Il y a une famine générale. Et ça dit qu'il a semé, puis qu'il a récolté au centuple. Il y a des cultivateurs ici, ils pourraient nous en parler longtemps. Centuple, ça veut dire que c'est 100 fois plus que d'habitude. Tu es dans un pays de famine, et le Seigneur permet que tes récoltes soient 100 fois plus importantes que d'habitude. Oh, il y a quelque chose qui se passe là. Dieu lui envoie cela, et on va voir que la richesse, c'est une bénédiction, il est venu riche. Il est venu riche, il avait beaucoup de bétail, de petits, de gros bétail, et plein de serviteurs. Mais on voit que quand Dieu envoie ça en même temps, il envoie l'épreuve qui suit. La jalousie, l'envie. Les Philistins se sont mis à l'envier. Et ça, ça lui a amené des problèmes extrêmement sérieux. Et on va voir de quelle façon, lui, il réagit à travers tout cela. C'est ça qui est important à nous de se souvenir, parce que le Seigneur, il va nous en envoyer à nous aussi des épreuves. Et dépendamment de la manière dont on va réagir, ça va nous apporter à comprendre des choses très importantes. Pour démontrer que c'est vrai, que les Écritures nous disent qu'on va connaître de l'amertume dans nos vies, on va aller lire à l'Apocalypse au chapitre 10, versets 9 et 10. « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlant de nouveau dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et je m'en allai vers l'ange en lui disant, « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit, « Prends-le et le dévore, et il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche il sera comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai. Et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Mais quand je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Qu'est-ce que c'est en train de... Le petit livre, il parle des Écritures. C'est que tu as les Écritures, c'est sûr, quand on les lit, les Écritures, on trouve un plaisir à lire tout ce que Dieu dit. Mais parfois, il nous demande des choses que ça peut être amer, d'abandonner des péchés et plein d'autres choses du style. Alors, l'amertume va être présente dans la vie de tout chrétien qui va vivre sa vie chrétienne de façon sérieuse. Donc, on va les regarder trois idées. La première, c'est qu'on va regarder que la prospérité, c'est une bénédiction divine. Dans les versets 12, aller jusqu'au verset 14, la première partie du verset 14, on voit vraiment que Dieu démontre que la richesse ou la prospérité, c'est une bénédiction divine. On va les relire, les versets, chapitre 26, verset 12 à 14a, 14, la première partie du verset 14. Et Isaac sema dans cette terre-là. Il ne faut pas oublier qu'il est dans un pays de famine. Si on oublie ça, on manque le contenu du livre. Et Isaac se met dans cette terre-là, et il recueillit cette année le centuple. Vous êtes dans un pays, là, disons que vous avez déjà vu des images à la télévision, des fois, où il y a des pays qui ont des famines. Là, le sol devient comme de la poussière. Là. Puis là, toi, tu es dans ce pays-là, tu sèmes, puis tu récoltes au centuple. Puis il se passe de quoi, là? Alors, car l'Éternel le bénit. On a la raison pourquoi que sa terre a produit au centuple. Verset 13, « Et cet homme, en parlant d'Isaac, devint grand, et il allait toujours s'accroissant. » Autrement dit, Dieu lui envoyait de la richesse, mais ça allait toujours en grandissant. Il avait toujours un petit peu plus, toujours un petit peu plus. « Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. » Pas juste un petit peu riche, là. « Fort riche. » Alors, quand tu deviens fort riche, à quelque part, c'est un petit peu normal, je pense, que tu t'attendes à ce que ça va avoir des réactions autour de toi. Verset 14. « Et il eut des troupeaux de brebis et des troupeaux de bœufs et un grand nombre de serviteurs. » À l'époque, la richesse, ça pouvait se voir justement par ton bétail et ça pouvait se voir aussi par le nombre de tes serviteurs. Quand tu avais beaucoup de serviteurs, ça voulait dire que tu étais... Comme on dit en québécois, tu étais plein comme un boudin. Alors, on doit se rappeler, justement, si on veut apprécier vraiment le passage, que Isaac vivait à une période de son histoire où la famine régnait dans le pays qu'il habitait. Alors, la providence divine, bien sûr, opéra des merveilles pour lui, et la récolte de sa terre recueillit le centuple. Par bénédiction de Dieu, la productivité de son champ atteignait les sommets. Des fois, on oublie ça aujourd'hui, que la prospérité que le Seigneur envoie dans les récoltes, par exemple, je vois un cultivateur devant moi, là. Dans les récoltes, c'est Dieu qui est en arrière de ça, c'est Dieu qui fait pousser les choses, c'est Dieu qui peut faire en sorte que ce soit un désastre à l'école, c'est Dieu qui fait en sorte que ce soit un immense succès. Comme dans ce cas-ci, là, Dieu lui envoie un immense succès. Alors, il ne faut pas oublier que dans Genèse, au chapitre 26, verset 3, le Seigneur avait fait une promesse à Isaac. Il lui avait dit, « Séjourne dans cette terre-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces terres à toi et à ta postérité, et j'établirai le serment que j'ai juré à Abraham, ton père. » Alors, le Seigneur manifeste ici, bien sûr, sa bonté, sa fidélité et sa toute-puissance, en permettant une récolte exceptionnelle au milieu d'un pays en pleine famine. Déjà ça, là, si on remarque ça dans le texte, là, qu'on était dans un pays de famine et que le Seigneur te donne une récolte, que tu récoltes 100 fois plus que tu récolterais d'habitude, tu t'aperçois qu'il se passe quelque chose. Alors cette bénédiction, bien sûr, lui apporta plusieurs bénéfices intéressants. La promotion sociale. Quand on n'est pas riche, on nous regarde comme... Pas bien important, hein? Il vaut pas faire, lui. Mais la promotion sociale, si tu es riche, on dirait que là, le monde se met tout à te regarder d'une façon différente. Regardons ça, il est riche. Ah ben ça doit être parce qu'il est intelligent, ça doit être parce qu'il est habile, ça doit être parce qu'il est ci, qu'il est ça. Mais on oublie toujours que La promotion sociale, c'est Dieu qui permet que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas. Donc, la promotion sociale, la richesse qui croissait sans cesse, comme ça disait dans le texte, et cette richesse-là se manifeste sous toutes ses formes. Des brebis, des bœufs en très grand nombre et aussi un grand nombre de serviteurs. Psaume 37, versets 18 et 19. L'Éternel connaît les jours des gens intègres et leur héritage subsistera toujours. Ils ne seront pas confus au temps du malheur. Ils seront rassasiés au jour de la famine. Intéressant, hein? Dieu nous dit qu'on, comme croyants, l'Éternel peut permettre qu'au plein milieu d'une famine, qu'on connaisse, Dieu dit qu'il va s'occuper de nous et on va être rassasié au jour de la famine. Deuxième idée qu'on va regarder à partir du verset 14b aller jusqu'au verset 21, c'est que la prospérité provoque toujours l'envie ou la jalousie ou les deux en même temps. Alors l'envie ne tarde pas à se manifester, verset 14b, et les Philistins lui portèrent envie. L'envie, c'est un sentiment destructeur. C'est un sentiment, en gagnant ça, lui, il est riche, moi, je ne suis pas riche. Bien là, ça ne marchera pas de même. Puis là, ça commence à nourrir des sentiments négatifs qui peuvent t'emmener à des, très loin dans la violence. Puis c'est ça qui va se produire, là, la violence. Alors, le verset 14b nous illustre un trait caractéristique des pécheurs qui est bien incrusté dans notre nature. On est des pécheurs. Donc, si on sait s'observer le moindrement, on se rend compte que nous aussi, on est envieux des fois. On envie la richesse ou la promotion sociale de quelqu'un ou les talents de quelqu'un. On est envieux de nature. Alors, la nature ici humaine, pécheresse, ne tarde pas à se manifester. Alors, plus un être humain va posséder de l'élévation sociale, plus il va posséder de biens, plus il va s'exposer à l'envie de son entourage. Certain, sans avoir besoin de vérifier, là, que je prendrais tous les gens riches de mes cantiques, là, puis on les mettrait tous dans la salle ici, là, peut-être qu'il y en a à peu près ça, une cinquantaine, peut-être plus. Puis je leur dirais, est-ce que votre richesse vous a amené de l'envie, vous a amené de la jalousie dans votre vie? Je n'ai même pas besoin de vérifier, je suis sûr que c'est ça que ça a fait. Pensez-vous que la personne riche, qu'elle aime ça, se fait traiter de même? Elle n'aime pas ça. Ça y fait mal. Parce que des fois, la richesse, il y en a qui l'ont développée de façon mal acquise. Mais il y en a que la richesse, ils l'ont développée parce qu'ils ont travaillé pour. Mais à quelque part, même que ce soit que tu l'aies acquis par des mauvais moyens ou que tu l'aies acquis par les bons moyens, les gens vont être jaloux. Pareil. Alors, quand tu l'as acquis par des bons moyens, puis que les gens sont jaloux de toi, puis qu'ils disent toutes sortes de choses dans le but de te détruire ou dans le but d'essayer de te voler, parce que, oh, pour voler un riche, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, cette expression-là, voler un riche, pas voler. Hein, les gens, ils se font démentir des fois. Ils disent, oh, voler le gouvernement, pas voler, tous des voleurs. Non. La Bible dit que voler, c'est voler. Que tu voles un riche, que tu voles quelqu'un qui vole, t'as volé pareil. Aux yeux de Dieu, c'est un péché aussi grave l'un que l'autre. Proverbe 27, verset 4, nous parle comment les hommes vivent quand ils sont victimes de la jalousie, de l'envie des autres. La colère est cruelle et la fureur est comme une inondation. Mais qui pourra subsister devant la jalousie? Autrement dit, tu es en train de te dire que la colère, c'est quelque chose qui est cruel. La fureur, c'est comme une inondation. Mais là, il est en train de dire que la jalousie est encore pire parce qu'il dit « Qui pourra subsister devant la jalousie? » C'est dur d'être victime de la jalousie des autres. Ecclésiaste 4:4 aussi nous parle encore de jalousie. « J'ai vu aussi que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'un à l'égard de l'autre. Ceci aussi est une vanité et un tourment d'esprit. » N'est-ce pas que des fois, on peut être jaloux de l'habileté de quelqu'un? Surtout si quelqu'un a une habileté dans laquelle toi, t'es pourri, et que l'autre a une habileté que lui, il semble nager là-dedans, puis aucun problème.
N'est-ce pas que notre cœur, des fois, il est porté à dire, bien, comment ça se fait que lui, il a ça, puis moi, il l'ai pas? C'est ça, l'envie. On veut avoir ce que l'autre a, mais c'est Dieu qui décide qu'est-ce qu'il donne à l'un, qu'est-ce qu'il donne à l'autre. Il n'y a pas plus de mérite quelqu'un qui est habile que quelqu'un qui est malhabile, parce que s'il est habile, c'est parce que c'est quelqu'un qui lui a donné, puis c'est cette personne qui lui a donné, c'est lui. Il n'y a pas d'affaire à se péter les bretelles pour ça. Alors, l'envie produit des fruits malicieux, versets 15 et 16, des fruits malicieux. Voyez-vous, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ils ont ressenti de l'envie. Ça, c'est le premier, c'est le sentiment. Mais est-ce que le sentiment reste là puis il ne fait rien? Non, le sentiment, il fait quelque chose. Et tous les puits, imaginez ça, ça à l'époque, là, tu avais des brebis, tu avais des bœufs. L'eau, c'était d'une importance capitale. Il fallait que tu emmènes tes animaux boire à tous les jours. Et c'était le puits qui était le centre. Regardez ce qu'ils font les Philistins. Et tous les puits que les serviteurs de son père, de qui il parle? Il parle d'Abraham. Tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés du temps de son père Abraham, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. Oh mon Dieu! Ça doit-tu... normalement, c'est quoi la réaction de l'être humain face à une affaire de même? « Ah ben là, toi, tu viens boucher mes puits, ben garde-moi bien aller, là. » La tendance naturelle du cœur de l'homme, c'est de vouloir se venger par la violence. Donc la violence répond à la violence. Mais je me souviens que quelqu'un que j'ai connu dans le temps disait « Un méchant, méchant ennemi ». Ça, c'était sa devise. Il disait « Un méchant, méchant ennemi ». Autrement dit, si tu me fais du mal, m'en rajouter 50% de plus. C'est ça qui était sa devise. Mais c'est vraiment carrément humain. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous. Va-t'en, on va plus te voir. Car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Là, tu te mets à avoir peur de lui, puis tu veux qu'il débarrasse. Claire la voie. Quelque part, il y a quelque chose de très cruel là-dedans. Là. Tu veux qu'il s'en aille du pays. Il vient d'avoir une récolte 100%... Puis toi, tu dis, « Hey, fly, je ne veux plus te voir. » Alors, Genèse 21, versets 30 à 31. C'est important de se souvenir des leçons qui ont été dites, des choses qui ont été dites par rapport à Abraham et les alliances qu'il avait faites avec Abimélec. Je ne sais pas si c'est le même Abimélec. C'est peut-être le fils ou en tout cas. Abimélec, souvent, c'est un titre, ce n'est pas nécessairement un nom de personnage. Alors, les disputes concernant les puits, ce n'était pas des choses nouvelles, parce qu'Abraham avait connu la même chose. Abraham avait eu aussi des querelles avec les bergers d'Abimélec. Abraham avait conclu une alliance de respect mutuel et de non-agression l'un envers l'autre. Cette alliance, même si c'était avec ton père, demeurait valable quand même, parce qu'Abraham avait pris une entente. Eux, c'était les descendants. Mais c'est pas à cause, c'est ton père qui l'a pris que tu ne dois pas le respecter. Alors, la première chose que l'envie les a amenés à faire, c'est de trahir une alliance qui avait été conclue par serment. Alors, Genèse 21, versets 30 à 31, on lit le passage dans lequel ces choses-là sont mentionnées. Et il répondit, « C'est que tu accepteras ces sept jeunes brebis de ma main afin que ce me soit un témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est Abraham qui parlait à Abimélec. C'est pourquoi on appela ce lieu-là Beersheba, qui veut dire « puits du serment », car ils y jurèrent tous les deux. Abraham a juré, Abimélec a juré, eux c'étaient les descendants d'Abimélec, et la première chose, le premier péché que ça les a amenés à commettre, c'est de renier une alliance faite par serment. C'était pas une petite affaire, c'était quand même une affaire assez importante. Maintenant, ça va les amener un petit peu plus loin. Verset 15. Les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. Eh mon Dieu! Imagine-toi, quand tu dépends de l'eau pour nourrir puis qu'ils viennent te boucher ça, tu dois filer hyper agressif. Moi, je pense que si j'avais vécu dans ces temps-là, je pense que j'aurais été porté à être agressif un petit peu. Alors, lorsque l'on considère l'importance des puits pour les bergers et la quantité considérable de travail que cela devait impliquer de creuser un puits. Ce n'est pas une petite affaire. Là. Tu ne creuses pas un trou de 4 pieds. Là. Les puits, c'est profond. Et que ça leur exigeait, non seulement pour les bâtir, mais aussi pour les entretenir, parce que souvent, ils roulaient des grosses pierres sur le dessus pour empêcher que trop de cochonneries qui rentrent dans le... Alors, on peut comprendre un peu plus la malice des Philistins. Et quel péché amène ça? L'envie. Ça va plus loin. L'expulsion du pays, verset 16. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous. » L'envie produit aussi des fruits qu'on pourrait appeler pédagogiques. Dieu se sert de l'événement pour enseigner à Isaac des principes qu'il a besoin de savoir. Comment se comporter quand les gens agissent comme ça envers toi? Est-ce que tu te lèves puis tu te montes en armée puis tu dis « Ah oui, c'est de même, ça marche. On va vous montrer comment ça marche. » Est-ce que c'est ça qu'il fait? Ben non. On voit que Dieu se sert de l'événement pour enseigner à son serviteur des leçons. À son serviteur, juste à Isaac? Ou bien non, s'il veut nous enseigner à nous autres en même temps? Il veut nous enseigner à nous autres en même temps. Ça veut dire que dans ta vie, tu peux en avoir des gens qui sont jaloux de toi, puis peuvent te faire des affaires vraiment méchantes. Puis que si tu réagis par la méchanceté, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut t'enseigner la patience. Dieu veut t'enseigner comment agir dans ces circonstances-là. Et quelles sont les choses que Dieu veut t'enseigner? Alors, Isaac, quand il lui a dit « Va-t'en chez nous », Isaac est parti, ça dit dans le verset 17, « Parti donc de là et campa dans la vallée de Guérar et y habita. » Et Isaac creusa de nouveau. Là, tu recommences. Tu dis « OK, vous avez voulu remplir mes choses, on va en creuser un autre. » Puis là, les Philistins, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Ils l'ont rempli encore! À quelque part, ça doit finir par venir te chercher. Surtout que ça fait plus qu'une fois. Alors, quelles sont les qualités que Dieu veut montrer à Isaac, et non seulement à Isaac, mais à nous? Si on lit les Écritures, puis on voit juste l'histoire d'Isaac là-dedans, là, on manque carrément le bateau. Dieu veut nous enseigner des choses à nous en nous contant une histoire. L'histoire de du fils d'Abraham, Isaac, mais si on regarde uniquement l'histoire puis qu'on ne voit pas que ça s'applique à nous, c'est sûr qu'on manque le bateau. Alors, il veut lui enseigner, au moins, je vois au moins quatre vertus que le Seigneur veut enseigner à Isaac. La première, je dirais que c'est la douceur. Est-ce que c'est la première chose qui vous monte à l'esprit quand quelqu'un viendrait vous boucher vos buis? Est-ce que c'est la douceur ou si ça serait « Ah ben là, tout est là. Attends un petit peu. » Alors, la douceur. Alors, Isaac a choisi de conserver la paix et d'éviter la violence en partant du lieu du conflit potentiellement meurtrier. Alors, il a décidé, il dit « Va-t'en. » Il aurait pu dire « Hey, chez nous, moi, tu ne m'enverras pas de chez nous comme ça. » Non. Il a dit « Va-t'en. » Il ne voulait plus le voir. Il dit « Pour conserver la paix, il a changé d'endroit. » Est-ce que pour nous, s'il nous arrivait des choses similaires, est-ce que nous, on serait portés à agir avec douceur et à changer d'endroit plutôt que de dire « Chez nous, ici, puis tu n'auras pas marché, chez nous, on va te montrer à vivre. » Le Seigneur nous montre une affaire. Quand tu es attaqué, sois donc doux dans ton comportement, dans ta façon de réagir. La deuxième, c'est la patience. Quand ça fait plus qu'une fois, la première fois, disons, tu dis « OK, tu dis « va-t'en », tu as bouffé mes puits, tu étais méchant, tu ne réponds pas par les méchancetés, tu es doux. » La patience, c'est que s'il recommence, oh, ça exerce une autre vertu, la patience. Isaac prit la décision de ne pas se venger et de recreuser les puits en se rappelant la signification théologique des noms. Parce que on lit rapidement, hein. Il dit qu'il a recreusé les puits de son père, puis il a redonné le nom que son père leur avait donné. Mais dans ce temps-là, tu ne donnais pas un nom à un puits juste comme ça, en l'air, pour le fun. Il y avait une signification théologique, donc, dans ta relation avec Dieu. Et il décide de redonner les noms que son père avait donnés au puits. C'est très, très significatif. Alors, des noms que son père avait donnés au puits. Et ses actions, bien sûr, s'inscrivent dans la continuité des actions d'Abraham. Troisième qualité, troisième vertu que le Seigneur veut lui enseigner, la persévérance.
recreuser un puits après qu'il t'a bouché une fois, t'en recreuses un autre, il te le rebouche. La persévérance, tu dis, il ne m'aura pas. Je vais en creuser un autre, plutôt que de tomber dans la guerre. Et il faut dire que quand on se connaît le moindrement, la tentation est bien plus forte d'aller dans la guerre que de recreuser et d'être persévérant. Donc, trois qualités que le Seigneur est en train d'apprendre à Isaac, mais par la pratique, pratico-pratique de tous les jours. Verset 19, « Et les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée, ils trouvèrent un puits d'eau vive. » Un puits d'eau vive, c'était des bons, ça. « Mais les bergers de Guérard se querellèrent avec les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Maintenant, tu creuses un autre puits, ça fait deux fois qu'ils viennent te faire du trouble. Tu creuses un autre puits, puis là, ils viennent te voir, puis ils disent, « Ça, c'est à nous autres. » Que ça doit venir te chercher, pas à peu près. Et il appela le puits Ézek. Regardez la signification. Le mot Ézek veut dire « contestation ». Puis vous remarquerez les trois mots, les trois prochains noms qu'il va y avoir au puits. Et vous allez voir que le Seigneur nous enseigne des principes comment agir. Lorsqu'il y a contestation, qu'est-ce que tu dois faire? Alors c'est ça, les bergers et contestation parce qu'ils avaient contesté avec lui. Nous le savons, la méchanceté attire ordinairement la vengeance. La vengeance est douce au cœur de l'Indien. On connaît tout ça. On l'a entendu, celle-là, à maintes et maintes reprises. Cependant, les enfants de Dieu ne doivent pas céder à cette tentation et choisissent de ne pas tomber dans la contestation permanente, parce que tu pourrais t'ostiner. C'est moi qui l'ai creusé, puis on va aller en cours, puis tu n'es pas sorti du bois. Puis, plutôt que tomber dans la contestation permanente qui ne produirait pas, en fait, les résultats désirés. Et la quatrième chose qu'il lui enseigne, c'est la sagesse. Verset 21. « Ensuite, ils creusèrent un autre puits. » Eh, misère! Moi, je vais te dire, là, je pense qu'il a ramené à bout de ma patience. « Pour lequel ils se querellèrent encore. » Et il l'appela « Sitna », qui veut dire « opposition ». Bon, contestation amène de l'opposition. Et le symbolisme des puits, des saintes écritures, c'est très clair. Si quelqu'un ferait une étude de tous les puits, tout ce que le Seigneur a écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament par rapport aux puits, c'est riche, très riche symboliquement et théologiquement. Alors, le symbolisme des puits dans les saintes écritures est clair. Il nous parle des soins intarissables de l'Éternel qui est vivant et de l'Éternel qui est toujours présent. Revoyons quelques principes enseignés par les différents noms des puits. Quand on dit qu'il donnait les noms que son père avait donnés, il y en avait un qui c'était l'Akai Roy, le vivant qui me voit. Tu es en train de parler, le vivant, c'est Dieu qui me voit. Il te voit tout le temps ce que tu es en train de faire dans Genèse 24, verset 62. Or, Isaac revenait du puits du vivant qui me voit. Et il demeurait au pays du Midi. Voyez-vous, dans la version Louis II, on dit « du puits de l'Akai Roy », puis il y en a dans certaines versions qui l'ont traduit « l'Akai Roy », ça veut dire « qui me voit ». Donc, ils ont traduit, au lieu de mettre le mot « l'Akai Roy », ils ont marqué « qui me voit ». Alors, ça, c'est juste parce que des fois, les Écritures nous donnent la signification d'une chose. La deuxième chose, c'est « Ézek », on l'a vu tantôt, qui veut dire « contestation ». Donc, dispute ou contestation. Le mot « sitna », il a donné un autre nom à un puits, « sitna » qui veut dire « opposition ». Regardez bien l'intelligence qu'il y a dans les principes que Dieu enseigne, même avec les noms des puits. Le vivant qui me voit, dispute ou contestation, opposition, et le quatrième, « rehobot », qui veut dire « distance, espace, largeur. On saisit-tu le principe? Lorsqu'il y a de la contestation et de l'opposition, tasse-toi, fais de la place, écarte-toi. C'est ça les principes d'intelligence qui sont là-dedans. C'est ça que Dieu voulait montrer aussi à Isaac. Verset 22, « Alors il partit de là et creusa un autre puits. » Il est patient, hein? Il a appris la patience. Creusant un autre puits pour lequel ils ne se disputèrent point. Pourquoi ils ne se disputèrent point?
Peut-être parce que Dieu avait vu qu'Isaac avait compris la leçon qu'il voulait lui enseigner. Et c'est la même chose pour nous. Si Dieu nous fait traverser des circonstances, qu'on n'apprend pas ce qu'il veut qu'on apprenne, il nous fait repasser par la même chose. Si on a compris, voyez-vous, il n'y a plus de contestation. Et il l'appela Réobot, et le mot Réobot veut dire largeur. Autrement dit, quand tu as de la contestation, tu as de l'opposition, tasse-toi. N'est-ce pas que des fois, s'éloigner de quelqu'un ou s'éloigner d'un groupe ou s'éloigner d'un problème, ça fait en sorte que ça règle ton problème. Et il dit, c'est que l'Éternel a maintenant mis au large et nous fructifierons dans le pays. Voyez-vous, en se tassant, il reconnaît que c'est l'Éternel qui va régler le problème. Alors, lorsque nous lisons les noms dans des puits dans l'ordre, nous apercevons de précieux et sages conseils divins. Dieu, le vivant qui me voit, nous conseille que lorsqu'il y a dispute et de l'opposition, nous devons prendre distance ou nous éloigner. C'est-tu beau? Quand on le voit vraiment, là, qu'on le saisit, là, le Seigneur est en train d'utiliser des moyens. Des fois, on lit ça, là, puis c'est trop rapide. On lit trop rapidement. Ça, c'est toujours un principe fondamental des Écritures. On lit toujours trop rapidement et sans prendre le temps de méditer ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Et de ne pas toujours voir ce qu'on lit comme étant une histoire. Oui, c'est une histoire, mais c'est une histoire qui veut enseigner à la personne, Isaac, mais qui veut nous enseigner aussi à nous. Si on lit ça et on ne retient rien, là, bien, quelque part, c'est ça qu'on appelle lire, ça sort par là. Alors, la prospérité développe des vertus, c'est notre troisième point, versets 22 à 25. La vertu, on le voit surtout dans le verset 25. Alors, il bâtit là. Quand est-ce qu'il construit son hôtel et qu'il invoque le nom de l'Éternel? Quand il voit que Dieu lui accorde la paix, il n'a plus de querelle après. Alors, il n'est pas sans comprendre de faire le lien que c'est Dieu qui permet qu'il n'y ait plus de querelle. Alors, il dit, alors, il bâtit là un hôtel et invoqua le nom de l'Éternel et dressa là sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Bon, à paix, on pourra en creuser un autre, mais là, tout le monde n'aura pas de contestation. Alors, le verset 22, la vertu de l'obéissance divine et son fruit. Alors, il partit de là, creusa un autre puits pour lequel ils ne disputèrent point. Il l'appela Réobot, largeur. Il dit, c'est que l'Éternel nous a maintenant mis au large. C'est l'Éternel qui était le maître d'œuvre dans toute cette affaire-là. Il a permis qu'après un certain moment donné, où tu as pu exercer les vertus qu'il voulait te montrer, là, il t'a donné la paix. Retenons ça dans notre tête à nous aussi. Parce que si on a des biens, c'est pas avec des biens matériels, hein. Des fois, ça peut être quelqu'un qui est plus riche que toi, ou ça peut être quelqu'un qui est plus talentueux que toi, ou ça peut être tout ce qui peut nous porter à l'envie. Puis, Dieu sait qu'on est envieux de nature. On est tous envieux de nature, sans exception. Alors, si on n'apprend pas là-dedans, qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer, comment agir quand on est victime de jalousie, d'envie? Parce que vous allez être victime de jalousie, vous allez être victime d'envie. Pas toujours la même chose, pas toujours les mêmes circonstances, mais le Seigneur va le permettre quand même. Alors, versets 23 et 24, vous avez, le Dieu vous apprend la vertu de la direction, de l'approbation et de la présence divine. Verset 23, et de là, il monta à Beersheba. Verset 24, très important. Et l'Éternel lui apparut cette nuit-là. L'Éternel apparaît quand? Au moment où il a tout compris ce qu'il avait à comprendre. L'Éternel lui apparaît dans le but de l'encourager. Voyez-vous, il lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. » Alors, il est en train de lui faire prendre conscience qu'il fait partie d'une lignée. Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à Jésus-Christ. Ne crains point, n'est-ce pas que ça peut t'emmener dans une attitude que tu vas avoir vraiment de la crainte là, quand on se met à t'attaquer comme ça, boucher tes puits, etc. Ne crains point, car je suis avec toi, et je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Ceux qui poursuivent la paix finissent par la trouver. »
Isaac décida de monter vers le puits que son père Abraham avait creusé et dont le nom est profondément significatif spirituellement. Isaac jouit de la direction divine. Donc, c'est Dieu qui l'envoie vers un puits que son père avait creusé et dont le nom est important. Genèse 21, versets 22 à 32. Alors, ça dit le puits de l'Alliance ou le puits du serment. Beersheba, ça veut dire le puits de l'Alliance, le puits du serment que Dieu avait fait avec Abraham. Il revient vers là et il comprend qu'il est dans une continuité. Il arriva dans ce temps-là qu'Abimélec, avec Picol, le chef de son armée, parla à Abraham en disant « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais, et maintenant jure-moi par Dieu que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni mes enfants, ni mes neveux. Comme j'ai agi avec bonté envers toi, tu agiras de même envers moi et envers la terre où tu séjournes. » Et Abraham dit « Je le jurerai. » Et Abraham reprit Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont les esclaves d'Abimélec s'étaient emparés. Et Abimélec dit, « Je ne sais qui a fait cette chose, et toi, tu ne me l'as pas fait savoir, et moi, je n'en ai rien entendu, sinon aujourd'hui. » Permettons d'en douter un peu. Et Abraham prit du menu du gros bétail qu'il donna à Abimélec, et ils traitèrent alliance, eux deux. Et Abraham plaça 7 jeunes brebis à part, et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as placées à part ?» Et il dit, c'est que tu prendras de ma main ces 7 jeunes brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, qui veut dire puits du serment. Parce qu'ils y jurèrent tous les deux. Et ils traitèrent alliance à Beersheba. Et Abimélec et Picol, chef de son armée, se levèrent et retournèrent dans la terre des Philistins. Et Abraham planta des tamarins à Beersheba. Et il invoqua là le nom de l'Éternel. Le Seigneur manifeste sa consolation à Isaac en lui apparaissant, qui n'est pas de la moindre chose. Dieu lui rappelle verbalement et visiblement, quand il apparaît, non seulement c'est verbal, il entend, mais il voit aussi, plusieurs grandes vérités. Il est le descendant d'Abraham et le bénéficiaire de toutes les promesses divines. Il faudra revenir là-dessus si on veut vraiment saisir. Il lui commande de ne pas craindre les méchancetés des hommes. Qu'est-ce que ça s'adresse à nous aussi? Il le rassure quant à sa présence constante. Est-ce que ça s'adresse à nous aussi? Dans les circonstances qui peuvent varier, mais qui peuvent... Et il lui assure aussi sa protection permanente. Et autre chose, il lui promet de le bénir. Et autre chose... Il lui assure qu'il multipliera sa postérité à cause d'Abraham, son serviteur. Autrement dit, il faut qu'il saisisse qu'il est un maillon de la chaîne qui va mener vers Jésus-Christ. Parce qu'il y avait Abraham, Isaac, Jacob, ça va jusqu'à Jésus-Christ. Il veut lui faire prendre conscience, tu es dans la lignée messianique. Alors, la vertu de la persévérance, bien entendu, dans le verset 25, il bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel, dressa là sa tente. Les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Isaac n'est pas un ingrat. Il veut adorer le Seigneur car il est conscient que ses bénédictions sont d'origine divine. La reconnaissance et l'adoration sont de mise. Bien sûr, si nous, on traverse des choses similaires et qu'on a appris les leçons qu'Isaac apprend, bien sûr, la reconnaissance et l'adoration sont de mise. Parce qu'après que tu as réussi à traverser des affaires aussi difficiles, puis tu as bien agi, puis là, Dieu te donne la paix, n'est-ce pas que c'est normal de se mettre à genoux et dire « Merci Seigneur d'avoir permis que je puisse agir comme du monde pour une fois dans ma vie. » Alors, la perpétuation des valeurs doit s'exprimer. Ici, c'est vraiment le puits de l'Alliance qui vient être le puits de la persévérance. Ça a commencé par Abraham. Abraham a réglé ses problèmes. Lui aussi en a eu des problèmes. Et on voit la continuité qui mène vers Jésus-Christ. Trois applications. Première application, autrement dit, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça dans nos vies d'aujourd'hui? N'oublions jamais que le Seigneur peut subvenir à tous nos besoins, même dans les circonstances que nous jugeons impossibles, comme accorder de la prospérité, même dans la famine.
Apprenons à lui faire pleinement et absolument confiance en toutes choses, malgré les apparences insurmontables des difficultés. Ça, ce n'est pas une leçon pour nous autres, là. On va demander c'est quoi. Deuxième, la prospérité peut s'avérer une grande épreuve car elle provoque la jalousie, l'envie, les querelles, les méchancetés et toutes sortes d'injustices. Prions le Seigneur de nous donner de réagir comme Isaac en pratiquant la patience, l'absence de l'esprit de vengeance, la persévérance à reconstruire ce que nos ennemis s'acharnent à détruire. Troisième application, réalisons que le Seigneur récompense toujours ceux qui lui obéissent. Il leur donne alors la paix, il les bénit abondamment et les amène à la gratitude et à une plus grande proximité avec lui. Que le Seigneur nous donne de toujours bien agir, que ce soit dans l'adversité ou dans la prospérité. À lui la gloire, à tout jamais. Amen.